de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Joudard le 18 février 1993.
Un nouvel être. Ça, c'est le mouvement le plus radical de la vie. La vie implique l'assimilation. Et pour expliquer l'assimilation, je dis et je parle d'intentionnalité. À l'intérieur du monde physique, le monde physique est commandé par la quantité. Donc l'extériorité. La quantité extériorise. Il n'y a pas d'intériorité dans la quantité, hein, aucune. Mais dès que la vie est présente dans le monde physique, il y a une immanence, il y a une intériorité. Et pour qualifier, comprendre cette intériorité à la différence du monde physique, je parle d'intentionnalité. Et c'est quand même très intéressant et très important. Parce que vous avez trois intentionnalités différentes. L'intentionnalité de la vie végétative, l'intentionnalité de la vie sensible, l'intentionnalité de la vie intellectuelle. Et l'intentionnalité progresse en fonction de ces trois degrés. C'est pour bien qualifier ces trois degrés. C'est pour ça que je parle d'intentionnalité. Et c'est vrai que l'intentionnalité explique cette immanence. Ou plus exactement, cette immanence exige de poser l'intentionnalité. C'est plutôt ça, il faut dire. Alors vous avez trois autonomies différentes dans trois types d'assimilation. L'assimilation végétative, qui est substantielle. L'assimilation intentionnelle. Les trois sont intentionnelles. Et la première, on dira, elle est substantielle, mais elle est intentionnelle aussi. Quand j'assimile une nourriture, il y a quelque chose qui est changé dans la nourriture. Ça devient ma vie. On n'explique pas ça, hein, et la science ne l'explique pas. On passe au-dessus, ça y est, on constate. Et le philosophe doit essayer de regarder ça. Parce que c'est là la chose tout à fait particulière du vivant. Le vivant ne se comprend que de l'intérieur. Quand je regarde le vivant de l'extérieur, je ne comprends pas le vivant. Quand vous vous regardez dans la glace, vous ne comprenez pas le vivant, même si vous faites des grimaces. Le vivant n'est pas une grimace. Il implique une assimilation. Quelque chose d'extérieur qui devient intérieur. Très mystérieuse. Hein. Parce que le monde physique s'use. Et le monde du vivant se renouvelle. La vie apporte au monde physique quelque chose d'irréductible au monde physique. Philosophiquement, c'est net. Les savants doutent. Puisque vous savez que parmi les biologistes, il y a les réductionnistes et les spiritualistes. Les réductionnistes sont beaucoup plus nombreux. On m'a dit ce chiffre il y a quelques années, je ne sais pas si c'est toujours le même. Les réductionnistes, c'est ceux qui ramènent la vie au physique. Et les réductionnistes sont beaucoup plus nombreux. Et les spiritualistes disent, ah, il y a un événement dans la vie qui ne s'explique pas par le monde physique, donc qui exige quelque chose d'autre. Et les anciens posaient l'âme. On passait de la nature. Problème se pose. Est-ce que ce quelque chose de particulier qui touche la substance, qui touche la nature, une certaine autonomie quand même de l'arbre, est-ce que ça exige un acte créateur de Dieu? Ou est-ce que l'évolution explique tout ça? Alors, je ne traite pas cette question, je la pose. Est-ce que c'est intéressant quand on étudie, quand on fait l'analyse du vivant, de se poser cette question? Philosophiquement, je dois y répondre en fonction de l'analyse que je fais. Et comprendre pourquoi le savant est toujours tenté par l'évolution. C'est une tentation permanente du savant. Je dis une tentation. En philosophe, je dis que c'est une tentation. Parce que on veut tout expliquer par la cause matérielle. Les réductionnistes, c'est l'explication par la cause matérielle. Les spiritualistes, non. Il y a quelque chose de particulier. Alors on rejoint là le point de vue de l'âme. Le vivant, tout vivant implique une âme. Bon, aujourd'hui, disons que tout vivant implique quelque chose de particulier qui est une force, une puissance, une dynamis vitale. On va essayer de préciser progressivement ce que c'est. Donc la vie végétative est liée, elle, au monde physique. Elle fait sauter le monde physique. Elle fait éclater le monde physique. C'est une façon très extraordinaire. Pensez à ces choses qu'on voit et qui sont une image étonnante. Quand vous voyez une couche pas trop forte de macadam, et puis une crevasse, et puis de là pousse une petite herbe. C'est toujours délicieux de voir ça. Une herbe qui pousse au milieu de tout ça. La vitalité prodigieuse de la vie qui fait sauter ça. C'est vrai, c'est assez étonnant. Surtout quand le macadam vieillit, hein, le ciment vieillit, alors il se fait là, grâce au gelé pour permettre à la vie de passer au-dessus. Oui, c'est là où vous voyez combien le macadam est artificiel et qu'il est l'été noir de la vie. Il permet de rouler plus vite, mais il est un été noir. Il faut violenter la nature par là. Et vous le voyez bien. Petite herbe pousse à travers tout ça. Coopération, le point de vue, exploitation. Et le macadam exploite. Ça, c'est très net. Normalement, on devrait avoir simplement une terre battue. Mais on en est loin maintenant. Qu'est-ce qui vient encore sur une terre battue? En Afrique, on peut trouver ça dans certains coins. Dans certains coins, on trouve ça. Et c'est beau, parce que c'est le vestige d'un âge passé. Des pygmées. Il n'y a pas encore d'Afrique, il n'y a pas encore de ciment. C'est très étonnant. Et on vit en communion avec la nature. Le ciment sépare complètement. Et alors, comme il sépare complètement, on fait une séparation complète. La nature n'est plus la nature. Elle est cimentée. Et le ciment, c'est artificiel. Donc, la vie végétative en communion avec la vie. Le point de vue de la vie sensible, c'est la connaissance. La vie végétative n'implique pas de connaissance. Alors, quelle différence y a-t-il de degré d'immanence entre la vie végétative qui va au-delà de la quantité et qui fait le passage de l'extérieur, de ce qui est extérieur, l'aliment, à l'intériorité? Quand vous connaissez, il y a vous voyez un ciel gris. Vous voyez, c'est les étoiles tombées sur la terre, le ciel gris. Hein. Vous voyez de toutes les couleurs. Et vous devez, vous connaissez ces couleurs. Elles deviennent vôtres par la connaissance. Et vous les unissez. Il y a un monde d'intentionnalité qui s'empare de la forme. Et là aussi, la vie passe d'une autonomie relative à une autre autonomie, qui est l'autonomie du vivant sensible. C'est les arbres qui marchent. C'est par la connaissance que je vois le point de vue du déracinement. Nous sommes des êtres déracinés. Ça, c'est sûr. L'évolution nous déracine. Déracinement se fait d'abord par le petit ver à mille pattes. Puis après, il y a plus que deux. C'est un progrès sensationnel. Je parle de mille à deux. Parce que je fais beaucoup plus vite. Mais je suis beaucoup plus loin de mes racines. Et je suis mobile. Enfin, du lieu. Je ne suis plus uniquement dans un seul lieu. Oui, l'indépendance plus grande grâce à la connaissance. La connaissance est source d'autonomie, d'indépendance. Et c'est pour ça que la connaissance va rechercher une sécurité. Je crois qu'il y a l'autonomie, la sécurité, la valorisation, c'est très curieux. On trouve les trois dimensions. Hein. Parce que la connaissance me met dans une indépendance plus grande. Et si j'ai une indépendance plus grande, je cherche une sécurité. Monsieur, l'arbre ne cherche pas de sécurité, il est planté. Sa sécurité, c'est d'être planté. Sa sécurité, c'est de ne pas bouger. Il y a des gens qui désirent rester comme des arbres, ne pas bouger. Toute leur vie enracinée dans le même lieu. Le vœu de stabilité. L'enracinement. L'enracinement. Il n'y a pas grand danger pour vous. C'est très très curieux, ça, que le point de vue de la vie et la vie animale, on verra ce qu'est la vie animale, mais si je montre le bien fondé de ces trois niveaux, c'est toujours du côté de l'autonomie, du côté de l'immanence. Bien là, l'immanence parfaite, c'est le vivant spirituel, l'intelligence, apporte une autonomie totale. Et voyez, les degrés de vie, je reviens sur la question de la personne structurée par la connaissance. Les degrés de vie se prennent du côté de l'immanence et du côté de la connaissance. Et donc ça structure le vivant. C'est la connaissance qui structure le vivant. Et la connaissance intellectuelle structure la personne, l'esprit. Ces degrés de vie ne s'opposent pas. Peuvent au contraire s'impliquer mutuellement. Une vie végétative parfaite réclame la vie animale, la vie animale parfaite réclame la vie spirituelle. Il n'y a pas d'opposition, d'antinomie entre ces différents degrés de vie. Il y a au contraire une harmonie. Saisir cette harmonie, il faut comprendre justement que la vie se présente à nous selon ces trois modalités analogiques. Vous voyez, connaissance analogique et non pas dialectique. Parce que chacun de ces modes de vie implique les caractères propres de la vie, l'assimilation. Et là, vous voyez bien que ce qui caractérise le vivant, c'est l'assimilation. Vous êtes un grand vivant dans la mesure où vous assimilez. Vous êtes un petit vivant quand vous en avez vite assez. Quand vous êtes fatigué, vous êtes un petit vivant. Vous écartez, j'en ai assez. Quand au contraire vous êtes en pleine euphorie, vous avalez tout. Mais vous savez ce qui se passe quand on avale trop? Alors c'est très curieux, il n'y a plus d'assimilation à ce moment-là. Il y a une limite à l'assimilation. Et je crois que c'est très important pour nous de comprendre ces trois modes d'assimilation. Assimilation au niveau de la vie végétative. Assimilation au point de vue de l'intentionnalité sensible, assimilation au niveau de l'intentionnalité spirituelle. Ces trois degrés de vie dont je saisis les opérations me permettent de poser des puissances qui sont à l'origine de ces diverses opérations. Des puissances de vie végétative, des puissances de vie sensible, des puissances de vie intellectuelle. Et ces puissances font l'intermédiaire entre l'âme dans son indivisibilité et les degrés de vie. Vous voyez, c'est très curieux. Quand il s'agit de la nature, je pose nature-forme, matière. Quand il s'agit de l'âme, je pose l'âme et le corps. J'induis l'âme. Le corps, je n'ai pas besoin de l'induire. C'est une évidence. Parce qu'on induit toujours, ce qui montre bien que le corps n'est pas un principe. Au plan philosophique, c'est une hérésie. Le corps n'est pas un principe. Le corps conditionne comme la matière, analogue à la matière. J'induis donc l'âme et le corps conditionne l'âme. Cause matérielle. Efficiente. L'âme qui est source radicale de vie et tout de suite implique donc tout de suite des puissances. Ces puissances à partir des opérations vitales. De vie végétative, puissance végétative, de vie sensible, de vie spirituelle. Donc trois niveaux de puissance. Et ces puissances sont liées à l'âme. Le lien des puissances et de l'âme. Parce que j'ai induit l'âme et j'induis aussi les puissances à partir des opérations. Vous n'avez de connaissance de puissance qu'à partir des opérations. C'est les opérations qui permettent de poser la puissance. Et je regarde après le lien de l'âme uni au corps et des puissances. Et je dis que puissances diverses émanent de l'âme, proviennent de l'âme. Comment puis-je dire ça? C'est que je dis que ces puissances sont source des diverses opérations. Elles sont source spirituelle, vitale de ces diverses opérations. Et ces puissances sont bien reliées à l'âme. À l'âme unie au corps. À l'âme distincte du corps. La vie spirituelle à l'âme distincte du corps. Les puissances végétatives, les puissances animales, c'est l'âme dans le corps. Parce que le corps est essentiel à ces diverses opérations de vie végétative et de vie sensible. Et le lien entre l'âme et ses puissances, je le découvre moi-même en voyant qu'il y a la diversité de ses facultés, la diversité de ses puissances, il y a l'unité de l'âme. C'est tout le problème de l'unité et de la multiplicité du vivant. C'est à cause de l'unité que j'ai posé l'âme. Et c'est à cause de la diversité des degrés de vie que je pose les puissances et la diversité des puissances. Donc il faut nécessairement qu'il y ait un point de repère entre l'âme et la diversité des opérations qui sont les puissances. Et ça, c'est très important pour comprendre justement ce qu'est l'homme. L'âme et le corps et nos facultés et nos puissances. Puissance de vie végétative, nos puissances de vie sensible, nos puissances de vie intellectuelle. Ça, il faut bien le saisir et bien comprendre comment je les pose. Pas seulement dire oui, c'est ça, c'est très bien. Il faut voir que l'âme est posée par une induction. Les puissances sont posées à partir des diverses opérations. Et en fonction de l'immanence de ces opérations. D'une immanence plus ou moins vitale. Je pose telle puissance. Et ces puissances posées à partir de l'analyse, à partir de l'analyse des opérations vitales. Parce que toute opération vitale implique une puissance vitale, implique le contact avec un objet. L'opération vitale implique le point de vue. Le sujet vivant, cause efficiente, est de la détermination ou des conditions sine qua non de l'aliment ou de l'objet. Alors vous voyez les analogies curieuses qu'on va tout de suite établir et qu'on va voir ensuite. Entre dans la vie végétative, vous avez l'aliment. Dans la vie sensible, vous avez l'objet. Et dans la vie spirituelle, vous avez l'objet. L'objet, ce par quoi je connais. Et l'objet, ce qui est connu. Quand on parle de l'objet, vous parlez des deux. Et nous allons voir ça dans l'analyse. Donc, vous voyez comment je pose cette émanation de nos facultés à partir de l'âme. Parce que j'ai deux aspects que je suis obligé d'accepter en raison de l'induction et en raison de l'analyse des opérations vitales. Je pose des facultés, des puissances. Et ces maintenant je pose ma vitalité et je ne peux plus séparer, c'est plus un vital, de l'opération vitale qui demeure en moi. Alors réfléchissez bien là-dessus, ça c'est une structure qui n'est pas commode et je crois qu'on doit la garder. Je ne vois pas comment on pourrait la supprimer. C'est l'Aristote, ça. C'est des péripsychèses. Parce que Aristote est le premier qui analyse l'opération vitale en voyant le sujet de cette opération vitale, le vivant, l'âme. Et puis, les déterminations de cette opération vitale, qui sont les objets. Mais il y a un code tout à fait particulier pour l'assimilation de la vie végétative. Parce que votre assimilation, elle est conditionnée par l'aliment, mais elle n'est pas déterminée par l'aliment. Vous n'allez pas dire que l'assimilation qui existe quand vous mangez des pommes de terre ou que vous mangez des carottes, que l'assimilation est différente pour les pommes de terre et les carottes. Les conditionnements sont différents. Mais c'est toujours l'assimilation vitale. Alors vous voyez là l'aspect transcendantal de la faculté ou de la puissance vitale au niveau de la nutrition. Puisque c'est elle qui détermine la nutrition et non pas, pas toute seule, mais pas, et non pas la traîne. C'est l'aliment conditionne, mais qui ne détermine pas. Et donc, c'est le sujet vivant qui a une puissance transcendantale par rapport à l'assimilation. C'est très intéressant de voir ça. Tant qu'il ne pouvait pas dire ça pour les sens, pour les sensations. Vous ne pouvez pas dire que pour les sensations, vous avez une puissance transcendantale qui détermine votre vision. Parce qu'alors, à ce moment-là, ce serait toujours la vision. Comme il y a la nutrition. Vous ne dites pas, oui, je vais manger, vous dites, oui, je vais manger des carottes. L'assimilation, elle est carotte. J'ai vu une rose. Mais c'est curieux. Et je connais ce qu'est la rose. Vous avez trois assimilations, tout à fait différentes. Et alors maintenant qu'on a vu comment de l'âme émanaient les puissances, ces puissances allaient aux trois niveaux de la vie végétative, de la vie végétative, sensible et spirituelle, nous allons étudier chacun de ces niveaux. Et c'est au niveau de la vie végétative que la biologie apporterait des précisions. Ne parle pas des nerfs. alimente. Aliment. Nourriture et boisson. Et la respiration. La respiration, c'est quand même le premier élément du vivant. Il respire. Et le dernier moment du vivant, il ne respire plus. La nutrition, la croissance. La nutrition est essentielle. Un vivant qui ne se nourrit plus, un vivant qui ne respire plus, ne peut plus vivre. La croissance, elle est relative à certaines périodes. Je ne grandis pas tout le temps. Et on est très inquiet chez ceux qui grandissent tout le temps. On est obligé de stopper. C'est curieux, il y a une maladie, on grandit tout le temps. Je ne sais pas ce qu'on deviendrait. Girafe. Et on étudie ça, c'est une maladie qui existe aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est une espèce de croissance. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ce serait très intéressant de voir quand même. Parce que la croissance est limitée. Mais l'araignée, normalement, telle croissance. Le singe, telle croissance. Et l'homme, telle croissance. Mais évidemment, c'est varié, parce que c'est entre les petits pygmées. Et puis, les chiens d'Amérique. Et on voit que la race humaine, elle va vers une croissance plus grande, elle grandit plus. Il y a de plus en plus d'hommes grands, au point de vue végétatif. Il y a de plus en plus de croissance, procréation. Alors, la nutrition, la nutrition et la respiration, c'est avant tout le point de vue de l'assimilation. C'est l'acte vital, fondamental. Et ceci, même pour le savant, dans la biologie, on caractérise la vie par l'assimilation. L'assimilation, c'est le se movere, se mouvoir. Assimiler quelque chose. Et c'est à l'égard de la vie végétative, de la nutrition, que je dois comprendre en premier lieu ce qu'est le se movere, se mouvoir. Le vivant, c'est celui qui se meut. Traduisons, le vivant, c'est celui qui assimile. Et on comprend alors très bien comment le se movere est de l'ordre de l'assimilation. Qu'est-ce que c'est que l'assimilation ? C'est justement le passage de l'extérieur à l'immanence. Ça, avant tout, en premier lieu. Alors, le biologiste, la science biologique, va analyser les conditions sine qua non pour que l'assimilation puisse exister. Et quand, de fait, il y a des excès de nourriture, de boisson, alors l'assimilation ne se fait plus. Ou il y a des conditions à l'égard du milieu vital. C'est pas la même chose. Alors on va étudier qu'est-ce que c'est que l'assimilation au plan philosophique.